Une liste de 34 ministres. Le gouvernement Le Cornu 2 a été dévoilé. Il est en très grande partie remanié. Manuel Valls n'est plus ministre des Outre-mer. Il est remplacé par Naïma Moutchou. Sur le territoire, l'église des Saints des Derniers Jours du Vallon d'Or détruite. Elle a été incendiée tôt ce matin. Une enquête est ouverte. L'incendie est maîtrisé à Païta. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 est toujours en vigueur. Les pompiers traitent les derniers points chauds. Dans l'actualité internationale de ce lundi midi, Donald Trump en vol vers Israël. Le président des États-Unis se rend sur place à l'heure de la libération des otages. Il présidera aussi en Égypte un sommet pour la paix à Gaza, sommet auquel participera Emmanuel Macron. Bonjour et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au magazine des sports à retrouver en fin de ce journal. Et nous parlerons rugby, Michael Juneski.
Oui, avec Toulouse, toujours trop fort pour l'UBB. En clôture de la 6e journée de Top 14, les Toulousains ont surclassé Bordeaux-Bègles 56-13 dans ce choc entre le triple champion de France en titre et le champion d'Europe. Avec ce succès, Toulouse remonte à la 2e place du classement.
En football, c'est la suite des qualifications au prochain mondial.
Objectif Coupe du Monde aux Amériques pour l'équipe de France qui sera sur le terrain de l'Islande demain, 3 jours après sa victoire sur l'Azerbaïdjan 3-0. Les Bleus sont toujours en tête du groupe D, mais ils joueront sans Mbappé, blessé lors de la dernière sortie.
Le sport côté calédonien, nous parlerons de l'actualité du volley.
Oui, beaucoup d'événements pour la Ligue calédonienne, à commencer par la visite du directeur technique national de la Fédération française de volley, Philippe Salvan. Il multiplie les rencontres auprès des pratiquants et des instances calédoniennes actuellement. Il sera donc notre invité, notamment en compagnie de Moïse Calemou, le président de la Ligue calédonienne de volley.
Un mag des sports à retrouver en fin de ce journal. La composition du gouvernement Le Cornu 2 a été rendue publique vers 6h30 ce matin pour nous. Le Premier ministre a dévoilé par voie de communiqué ce qu'il présente comme un gouvernement de mission avec lequel il entend déposer un projet de budget dans les temps avant de contrer la censure qui a déjà été annoncée par les oppositions. Le nouveau gouvernement a été annoncé dimanche soir à Paris, 2 jours exactement après la reconduction de Sébastien Le Cornu à Matignon. Il est donc composé de 34 ministres, dont 19 de plein exercice, et il mêle des personnalités de la société civile, des profils expérimentés et de jeunes parlementaires, Elisabeth Noir.
Au total, 26 ministres, une étiquette partisane et 8 viennent de la société civile. Les principales personnalités de ce gouvernement Le Cornu 2, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est nommé ministre de l'Intérieur pour succéder au président de LR, Bruno Retailleau. L'ancien PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, est nommé au travail. Monique Barbu, l'ex-présidente de WWF France, est ministre de la Transition écologique. L'ex-directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, est nommé à la tête du ministère de l'Éducation, ce qui entraîne le départ du gouvernement d'Elisabeth Borne. Parmi les autres nominations de personnalités moins connues mais politiques cette fois-ci, le chef des députés indépendants Liotte, Laurent Panifou, se voit confier les relations avec le Parlement, et la députée macroniste Maud Bréjean est porte-parole du gouvernement. Et puis plusieurs ministres déjà présents dans les gouvernements Bayrou ou Barnier restent en place. C'est le cas de Catherine Vautrin qui quitte le travail et la santé pour le ministère des Armées. Jean-Noël Barrot reste aux affaires étrangères et Rachida Dati conserve le ministère de la Culture. Une surprise alors que Sébastien Le Cornu s'était donné comme consigne de ne s'entourer que de personnalités n'ayant aucune ambition pour 2027. Gérald Darmanin a été reconduit garde des Sceaux. Il a annoncé sur X se mettre en congé de ses activités partisanes. 6 ministres viennent par ailleurs du parti Les Républicains, dont la consigne était pourtant de ne pas participer au gouvernement. Parmi eux, Annie Genevard, reconduite à l'agriculture, ou Vincent Jeanbrun, qui devient ministre du Logement. Les 3 ministres venant d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui s'était montré réservé sur une participation au gouvernement, ne seront en revanche pas exclus. Parmi ces 3 ministres, Naïma Moutchou, à l'Outre-mer.
Naïma Moutchou, qui est donc la nouvelle ministre des Outre-mer, elle succède à Manuel Valls, qui quitte le gouvernement. La députée Horizon, âgée de 44 ans, était ministre de la fonction publique dans le premier gouvernement Le Cornu.
Naïma Moutchou, dont la première tâche sera le dossier de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui reste, on le sait, l'une des priorités du gouvernement. Sur X, elle déclare accepter cette responsabilité par fidélité à l'État et par devoir envers nos compatriotes des Outre-mer. « Je mettrai toute mon énergie à leur service », écrit-elle, avec une attention très immédiate pour la Nouvelle-Calédonie. Âgée de 44 ans, vous le disiez, Naïma Moutchou est d'origine marocaine. Ses parents sont arrivés en France en 1961. Après des études de droit, elle a exercé de 2010 à 2017 comme avocate. Elle est aussi engagée bénévolement auprès de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et elle s'enorgueillit d'avoir fait condamner l'un des premiers cas de racisme anti-blanc. En 2017, elle a été élue députée du Val-d'Oise. Elle a été la première vice-présidente du groupe LAREM en 2019. et elle devient vice-présidente de l'Assemblée en juin 2022. Elle ne sera restée que 14 heures ministre de la fonction publique avant la démission du premier gouvernement Lecornu lundi dernier. La chef des files des loyalistes, Sonia Beckès, se félicite de cette nomination, mais elle souligne que le dossier calédonien sera de toute façon suivi par au moins 3 ministres.
On aura pour la Nouvelle-Calédonie finalement Naïma Moutchou évidemment, mais un trio puisque Sébastien Lecornu connaît très bien le dossier. Et Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur, va également avoir à nous suivre pour les questions de sécurisation des élections et de maintien de nos forces de sécurité en Nouvelle-Calédonie. Naïma, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec laquelle moi j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais à Paris. C'est quelqu'un de très compétent, qui est une proche d'Édouard Philippe. Je suis rassurée par cette configuration, avec évidemment l'inquiétude qui reste de savoir si le gouvernement de Sébastien Lecornu va passer la semaine.
Et c'est bien sûr toute la question. Satisfaction également pour le député Nicolas Mezzoff. Il connaît bien Naïma Moutchou, avec laquelle il a siégé à l'Assemblée nationale.
Naïma, c'est une collègue de l'Assemblée nationale. Je la connais depuis que j'ai été élue députée, puisqu'elle était vice-présidente de l'Assemblée. Et surtout, elle a participé avant 2022 à des missions d'information sur la Nouvelle-Calédonie. Elle est déjà venue à Nouméa plusieurs fois. Et donc, elle connaît bien le territoire. Elle a suivi le dossier. C'est une femme de droite, c'est une femme de conviction, c'est une femme de caractère. Elle nous vient de chez Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de difficultés particulières. On se connaît bien. Je pense que je la verrai après la passation de pouvoir pour évoquer le dossier. On va certainement aussi être rapidement dans le vif du sujet avec les textes qui arrivent sur le décalage des élections provinciales.
On peut noter que de 2020 à 2022, Naïma Moutchou était vice-présidente de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Elle a également fait partie en 2021 de la commission d'enquête sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Et puis sachez qu'il n'y aura pas de passation de pouvoir publique, rue Oudinot. La transmission entre Manuel Valls et Naïma Moutchou se fera au sein du ministère des Outre-mer, mais sans la présence de la presse.
Un premier conseil des ministres doit d'ailleurs se tenir mardi à 10h au retour d'Égypte du président Emmanuel Macron. On en reparlera un petit peu plus tard. Et après des passations de pouvoir dans les ministères que le chef du gouvernement a souhaité sobre, sans presse et sans invité. Sébastien Lecornu, qui s'est entretenu plus de 3h dimanche soir, c'est-à-dire ce matin pour nous, avec Emmanuel Macron, a confié sur X que la mission était de donner un budget à la France avant la fin de l'année, Elisabeth.
Le temps presse car le Parlement dispose de 70 jours pour examiner le budget avant le 31 décembre. Il faudrait donc que le projet de budget lui soit transmis mardi. Ce nouveau gouvernement a toutefois une durée de vie qui pourrait être limitée car l'ensemble des oppositions menace Sébastien Lecornu de censure. « Ne déballez pas trop vite vos cartons, la censure arrive », a tweeté la chef du groupe insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Et pour le Rassemblement national, Marine Le Pen, elle a annoncé le dépôt d'une motion de censure dès lundi. Si Sébastien Lecornu devait de nouveau démissionner, la perspective d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale se rapprocherait alors davantage. Le groupe socialiste et ses 69 députés est le seul capable de sauver le nouveau gouvernement. Mais il a placé la barre très haut. Sans confirmation d'une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, le PS censurera le gouvernement. Sur BFM, le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, a confirmé cette position.
Du côté des socialistes, on est très clair. Nous, on a posé des lignes claires au Premier ministre. Aujourd'hui, il le sait. Soit dans sa déclaration de politique générale de mardi, il annonce la suspension complète de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Soit sinon, le Parti Socialiste et les 69 députés socialistes censureront ce gouvernement qui tombera donc dans la foulée.
Le Parti Socialiste qui attend la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu pour décider ou non d'une censure. Et puis la composition de ce gouvernement a ouvert une vraie crise chez les Républicains. Ils sont plus nombreux que prévu à avoir bravé les consignes du parti en rejoignant le gouvernement de Sébastien Lecornu. Et dans la foulée, le parti a annoncé l'exclusion des 6 ministres issus des LR et la cessation immédiate de leurs fonctions dans les instances dirigeantes. Une réunion de ces instances est programmée dans les tout prochains jours pour statuer de manière définitive. Parmi les frondeurs, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui occupait jusqu'ici le poste stratégique de présidente de la Commission nationale d'investiture, chargée de désigner les candidats LR, notamment au municipal de mars prochain. Il y a aussi Philippe Tabarot, qui a été reconduit au transport, Rachida Dati, reconduite à la culture alors qu'elle vient tout juste d'être investie par les Républicains comme candidate à la mairie de Paris. Les 3 autres LR à entrer au gouvernement sont tous députés, Vincent Jeanbrun au logement, Sébastien Martin à l'industrie et Nicolas Forissier au commerce extérieur et attractivité. Ils sont exclus, mais Franck L'Ouvrier, maire LR de La Baule, ne veut pas parler de trahison.
Il ne faut pas parler de trahison, mais quand il y a des règles qui sont définies de façon démocratique, il est normal que tout le monde les applique. Alors, ne plus avoir de responsabilité au sein des instances ne veut pas dire non plus qu'on s'éloigne totalement de sa famille. Mais à partir du moment où les choses ont été décidées de façon majoritaire, il est normal qu'on applique la règle. Mais la question de fond, elle n'est pas là. La question de fond est de savoir, est-ce que ce gouvernement n'est pas là pour préparer l'abandon de la réforme des retraites? Si c'est le cas, là, ça risque de créer vraiment une crise politique avec les Républicains. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons toujours défendu cette réforme des retraites. Je dirais même que ça fait partie de l'élément principal pour la discussion budgétaire à venir. Si demain, on doit abandonner cette réforme, vous imaginez bien que c'est totalement incohérent de pouvoir rester, si ce n'est continuer à soutenir une telle action. Donc voilà, c'est ça l'enjeu principal, je pense, de ce soir.
Et avec une cinquantaine d'élus, les députés LR occupent une position pivot à l'Assemblée. Ils constituent aux côtés du bloc macroniste la deuxième composante du socle commun.
Et évidemment, les conséquences de cette crise politique sur la Nouvelle-Calédonie sont au cœur de votre chronique de la semaine écoulée, Elisabeth Noir.
Passera ou passera pas ? La Calédonie retient son souffle depuis plusieurs semaines déjà, depuis que la crise politique nationale vient encore un peu plus brouiller les cartes et qu'elle fait planer une menace, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival. L'accord signé le 12 juillet doit en effet se traduire par l'adoption de plusieurs textes législatifs et d'abord par la fameuse proposition de loi organique qui reporte à juin 2026 les élections provinciales. Mais depuis la chute du gouvernement Bayrou, c'est l'ascenseur émotionnel. Alors ça peut paraître un peu égoïste de regarder, au travers du seul prisme calédonien, la crise de régime inédite que traverse notre pays. Mais ce n'est pas de notre faute non plus si l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a été érigé en priorité nationale, à égalité avec le budget de l'État par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Premier ministre démissionnaire puis missionné par le président de la République qui a finalement choisi de le renommer parce que c'est, semble-t-il, l'ultimatum dont il dispose. Depuis sa première nomination à Matignon il y a déjà un mois, Sébastien Lecornu a cité la Nouvelle-Calédonie dans chacune de ses prises de parole. C'est pour lui un sujet de préoccupation majeure, à régler dans les plus brefs délais. À 18 000 km d'ici, nous avons une situation institutionnelle qui ne peut pas attendre, a-t-il martelé sur France 2. Il faut dire qu'il y a véritablement urgence, parce qu'à l'heure actuelle, les élections provinciales sont toujours fixées à la fin novembre, et que si rien n'est fait, nous serons convoqués aux urnes dans un petit mois et demi pour désigner les membres des assemblées de province et du Congrès sur la base d'un corps électoral gelé. À ce titre, la nomination de Sébastien Lecornu avait été accueillie avec soulagement par la majorité de la classe politique calédonienne, qui saluait aussi la continuité aux Outre-mer avec le maintien de Manuel Valls. La démission du Premier ministre, quelques heures seulement après la présentation de son gouvernement, avait inquiété et découragé, tant le calendrier est serré. Mais avant même la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, le gouvernement démissionnaire a demandé vendredi l'inscription en urgence à l'ordre du jour du Sénat de la proposition de loi qui reporte les provinciales. On se prend à y croire à nouveau en se disant que ça va peut-être passer in extremis. Mais il faut rester prudent. Le texte devrait être adopté sans problème par le Sénat, mais les débats risquent d'être plus tendus à l'Assemblée nationale où plusieurs groupes de gauche vont relayer les positions du nouveau FLNKS et s'opposer à ce report. D'autant plus que le député Tchibaou et le sénateur Rowy estiment que le caractère d'urgence attaché à la situation calédonienne ne saurait en aucun cas justifier un passage en force, expression fétiche du FLNKS. Mais on ne sait pas non plus quelle sera l'attitude du Rassemblement national, alors que Marine Le Pen a jugé ambigu l'accord de Bougival. Et si la loi est adoptée par les deux assemblées, il faudra encore qu'elle soit promulguée avant le 2 novembre. C'est donc une véritable course contre la montre sur un parcours semé d'obstacles. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait et que la Calédonie est aussi concernée par l'autre urgence nationale, le vote du budget de l'État qui comprend notamment les aides versées au territoire. Alors Sébastien Lecornu arrivera-t-il à composer un gouvernement pour lequel il aurait, dit-il, carte blanche ? Arrivera-t-il à faire adopter son projet de budget ? Parviendra-t-il à échapper à la censure ? Et pourra-t-il sauver l'accord de Bougival ? Autant de missions impossibles pour lesquels il faut au moins un moine soldat, quand même, à se définir Sébastien Lecornu.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, à réécouter dans le Tout Info à 16h cet après-midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu et à tout moment sur notre site internet, le www.rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la reconduction de Sébastien Lecornu comme Premier ministre? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une pause publicitaire avant l'actualité sur le territoire et on reviendra sur l'incendie d'un lieu de culte au Mont d'Or ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Ensemble pour l'eau, bâtissons la réglementation de demain. La loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource est adoptée. Œuvrons à sa mise en œuvre lors du Forum de l'eau 2025. Adaptez-la à vos réalités locales. Répondez à la consultation publique sur son arrêté d'application. Partagez vos propositions en atelier thématique les 21-22 octobre à Koné, les 28-29 à Nouméa et en plénière le 6 novembre au Centre culturel Tchibaou. Inscrivez-vous pour participer. Toute l'info sur eau.nc ou au 25-51-12. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie marquée par l'incendie tôt ce matin du local de l'église des Saints des Derniers Jours au Vallon d'Or, Lionel Sabot.
Les sapeurs-pompiers du Mont d'Or ont été alertés aux alentours de 4h ce matin. Arrivé sur place, un premier équipage composé d'un véhicule et de 4 personnels constate un embrasement général à l'intérieur du bâtiment. Des renforts sont alors demandés. Ce sont 8 sapeurs-pompiers appuyés par 2 véhicules d'intervention qui lutteront contre les flammes. Le bâtiment qui ne s'est pas effondré a été entièrement détruit. Écoutez Jean-Olivier Smati, c'est le président de l'église des Saints des Derniers Jours.
L'incendie s'est produit cette nuit, que le compteur électrique qui contrôlait l'alarme a été coupé volontairement en fin de soirée, que plusieurs individus probablement sont rentrés dans le bâtiment, toutes les vitres ont été brisées, et à partir de 4h du matin, là on a eu reçu vraiment le signal, en fait, il y avait des gendarmes qui étaient sur place avec les pompiers pour mettre fin au feu. La première réaction, forcément, c'est une réaction de sidération, de tristesse, de regret. L'église est là depuis maintenant de nombreuses années. Elle a pour vocation de faire du bien autour. Elle a pour vocation d'apporter un message de paix, de partage, de compréhension. Et ce qu'on a vécu est le contraire, en fait, de ce message-là. Et donc, on est affecté, mais on n'est pas accablé. On est triste, mais on n'est pas désespéré. On reste confiant. On va aller de l'avant. On va continuer à aller de l'avant avec foi et confiance dans l'avenir.
Des propos recueillis il y a quelques minutes par Kélinda Boacou, le maire du Mont d'Or, Elisabeth Rivière, s'est également rendue sur place ce matin.
C'est déplorable pour les communautés qui participent, qui sont actifs dans cette église, sans connotation religieuse pour moi, mais c'est un outil de la commune pour les habitants de proximité. Donc c'est toujours dommage de détruire ce type d'outil. Et vous dire que on se pose aussi des questions parce que souvent on fait focus sur le Mont d'Or, mais depuis un mois cette église est attaquée au niveau international. En un mois, c'est la 5e église qui est brûlée et la dernière était hier en Nouvelle-Zélande avant celle d'aujourd'hui chez nous sur notre commune. Donc on se pose des questions aussi au niveau international si tout ça n'a pas un lien.
J'ajoute que l'intervention des sapeurs-pompiers s'est déroulée ce matin sous la protection de la gendarmerie nationale. Une enquête a bien sûr été ouverte pour identifier le ou les auteurs des faits.
À Païta maintenant, les soldats du feu luttent toujours contre un incendie dans le secteur de Bangou. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 a été activé hier. Les fumées provoquaient également des perturbations pour la circulation sur la RT1. Le travail des pompiers effectué durant la nuit a permis de fixer l'incendie. Les précisions de Gwenval Cambon, responsable des opérations.
On est toujours sur la même dynamique que cette nuit, donc l'ensemble des efforts qui ont été fournis par les équipes jusqu'à tard, jusqu'à 2h du matin, ont permis de fixer le feu. On est en phase de traitement des différents points chauds sur l'ensemble des 400 hectares du sinistre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de reprise et de feu qui viendrait à ressurgir et à repartir.
Quel est le dispositif déployé actuellement?
On a une vingtaine de sapeurs-pompiers sur zone, parce qu'une dizaine de véhicules, plus deux moyens aériens, une équipe drone qui nous permet donc de faire des reconnaissances aériennes, de bien cibler justement ces fameux points chauds dangereux, un hélicoptère encore bombardier d'eau pour nous permettre de traiter ces petits foyers qui seraient inaccessibles par voie terrestre. C'est vrai que sur une superficie comme celle-là, il faut bien compter en général un ou deux jours minimum avant de pouvoir au mieux passer un feu éteint si on n'a pas constaté de reprise.
En ce qui concerne le plan Orsec feu de forêt de niveau 2, il reste en vigueur?
Il reste en vigueur dans la journée. On refera un point entre les différentes collectivités, entre la mairie de Païta et la Nouvelle-Calédonie, donc pour voir si on maintient le dispositif Orsec 2 en fin de journée.
À des propos recueillis par Mickaël Juneski, on rappelle qu'hier, des habitations étaient menacées dans le secteur de la tribu de Bangou. Dans l'actualité sociale, ce mouvement de mécontentement de la COGETRA sur le site du receiving de la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Plus d'un an après les émeutes de mai 2024 et alors que plusieurs centaines d'entreprises ont dû mettre en place des plans de licenciement, le syndicat proteste contre les lenteurs administratives. Écoutez Jean-Pierre Cabart, le président de la COGETRA.
Les dossiers ne sont pas traités ou les dossiers sont peu traités. On constate encore depuis la semaine dernière des dossiers qui dépassent les délais réglementaires et qui donc sont acceptés automatiquement sans examen de la direction du travail, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui des situations où des sociétés qui bénéficient de plans de licenciement sans avoir eu de réponse de la direction du travail. Ce qui est inadmissible pour nous syndicats de salariés, puisque on estime que ça fait partie des procédures de protéger aussi les salariés dans le cadre de ces licenciements-là, et donc tout ça doit se dérouler de manière correcte et légale, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça fait de nombreuses semaines qu'on proteste contre ça. On n'est pas reçu par les inspecteurs du travail, on n'est pas reçu par la direction de l'emploi. Donc on montre aujourd'hui notre mécontentement vis-à-vis de tout ça. Il y a des gens qui sont licenciés alors qu'ils ont, on n'a pas respecté leurs droits.
Et j'ajoute qu'une rencontre devrait finalement avoir lieu demain entre la COGETRA et la Direction du Travail.
Radio Rythme Bleu, 11h52.
Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre, journée internationale de la réduction des risques de catastrophe et journée nationale de la résilience. Nous en avons parlé ce matin à 7h30 avec Julia Noir, chef du projet Alerte à la Croix-Rouge française. Elle est venue nous présenter ce dispositif de sensibilisation aux risques naturels en Nouvelle-Calédonie, lancé en 2010. Chaque année, 120 formations sont dispensées dans les écoles du territoire, avec une partie sur les gestes de premier secours et une autre sur la prévention des risques en Nouvelle-Calédonie. Écoutez Julia Noir.
Nous, on travaille avec la direction de la sécurité civile qui nous aide à cadrer nos contenus. Donc, nos 6 risques majeurs ciblés sont donc les inondations, les cyclones, les tsunamis, séismes et les mouvements de terrain et feux de forêt. À l'origine, la naissance du projet voulait sensibiliser les enseignants en passant par une sensibilisation auprès des enfants pour intégrer des modules sur les risques naturels dans le programme scolaire. C'est un public qui est très réceptif, les enfants, et ils vont aussi véhiculer des messages. On peut faire des enfants des petits ambassadeurs des risques naturels pour que les messages soient véhiculés auprès des familles, de l'entourage. Il faut savoir que les enfants qu'on touche, donc qui ont généralement 10-11 ans, ils sont déjà en âge d'être formés au premier secours. Donc nous, on sème des graines, ça ne les empêche pas plus tard, s'ils le souhaitent, de faire une formation plus complète. Donc voilà, des messages de sécurité, de citoyenneté, de solidarité aussi, qu'on transmet aux enfants.
Ce week-end, le projet Alerte pour Anticipons les risques tous ensemble était présent au Village des Sciences de la FOL pour la Fête de la Science samedi. Et vous pourrez retrouver les bénévoles de la Croix-Rouge sur d'autres événements pour le grand public d'ici la fin de l'année. De nombreuses animations pour les jeunes pendant les vacances scolaires. Comme à chaque période, les ateliers du Faubourg proposent aux enfants des stages de théâtre et d'art plastique. Pour cette période de vacances d'octobre, le thème est la maison hantée. Les précisions de Marion Dionnet, organisatrice d'ateliers d'art plastique.
Alors cette semaine, le thème, c'est la maison hantée, vu que c'est Halloween qui approche. Et chaque jour, on va aller dans une pièce différente et il y aura un dessin en rapport. Je ne peux pas spoiler maintenant parce qu'on est le début, mais chaque jour, il se passera quelque chose dans une des pièces de la maison hantée. Alors là, tout de suite, on vient de rentrer dans la maison, elle est toute sale, il y a plein de toiles d'araignées de partout. Du coup, ce matin, on est un peu en train de travailler sur la toile d'araignée, mais on travaille au pastel gras. Et après, on viendra mettre plein de couleurs à l'encre de couleurs. Les encres, elles n'arrivent pas sur le pastel. Donc aujourd'hui, ça ne nécessite pas des grandes compétences de dessin, mais on est vraiment dans l'expérimentation des couleurs et du matériel. Exceptionnellement, il reste de la place. Si jamais il y a des enfants qui veulent se greffer en cours Ils peuvent venir le matin de 9h à midi, mais c'est toute la semaine, c'est pas à la journée, c'est à la semaine.
Et plusieurs ateliers seront donc organisés cette semaine sur le thème d'Halloween, de quoi ravir les jeunes âgés de 7 à 16 ans.
Moi, je viens quasiment chaque vacances, c'est mon choix, parce que je trouve ça bien, puisque ça nous occupe tout en faisant des choses intéressantes, en apprenant des nouvelles techniques de dessin, donc c'est très intéressant.
Moi, de base, j'adore dessiner, et c'est pour pas rester chez moi pendant les vacances à rien faire. Comme ça, je découvre des nouvelles techniques et tout.
À chaque fois, chaque jour, on découvre ce qu'on va faire, c'est pas du tout à l'avance. Parfois, on n'a pas des tenues adaptées. Mais sinon, oui, on découvre à chaque fois ce qu'on va faire.
Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marion Dionnet au 92 57 15. Le 92 57 15, un stage de théâtre sera également proposé du 20 au 24 octobre. Pour toute précision, vous pouvez contacter le 77 54 77, le 77 54 77. Il est 11h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale notamment et cet accord de paix à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que son pays est prêt à accueillir immédiatement tous les otages retenus par le Hamas.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Allwood, c'est le mois du deck. Kohu, Radiata, Bambou Noir, Kumaru, plus de 10 essences à découvrir. Et jusqu'au 31 octobre, pour l'achat de deck avec ses vis, le solivage est offert. Voir conditions en magasin. Allwood, 22 rue des Cartas du Cos ou sur Facebook.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la libération des otages de Gaza qui est attendue ce soir pour nous, selon le porte-parole de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a lui affirmé que son pays était donc prêt à accueillir immédiatement tous les otages retenus par le Hamas. 20 otages qui seraient encore vivants, libérés en même temps et remis à la Croix-Rouge. Ils seront ensuite accueillis dans 3 hôpitaux qui se préparent activement à leur arrivée. Cyril de la Morinerie est l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.
À l'hôpital Beilinson de Petah Tikva, à 20 km de Tel Aviv, l'équipe médicale est prête à accueillir les futurs ex-otages. Les familles sont déjà arrivées. Elles ont pu travailler de concert avec l'équipe médicale afin de préparer les chambres. L'objectif est de créer une atmosphère bienveillante pour leur permettre de reprendre rapidement des forces, confirme à Europe 1 Dr Michal Stein, directrice des soins infirmiers.
Les chambres sont aussi accueillantes qu'à l'hôtel, avec tout ce qui est nécessaire médicalement. Les familles ont apporté leurs instruments de musique, leurs chaussures préférées, le déodorant qu'ils aiment, des fleurs, pour qu'ils se sentent comme à la maison.
Les ex-otages seront immédiatement pris en charge par une équipe de 6 médecins. Après une prise de sang et quelques tests, ils pourront retrouver leur famille. Après des mois de privation, la priorité sera de les faire manger. Un nutritionniste sera à leur côté.
On porte une attention toute particulière à la alimentation. On doit les faire manger progressivement, pas trop vite pour éviter des problèmes cardiaques. On leur donne de la nourriture, surtout pour qu'ils reprennent rapidement des muscles. C'est vraiment l'une de nos missions principales.
Un psychologue sera également présent afin d'aider les ex-otages à reprendre goût à la vie après avoir vécu l'enfer et frôlé la mort.
Et j'ajoute que les présidents égyptiens et américains présideront demain à Sharm el-Sheikh en Égypte un sommet pour la paix à Gaza. Donald Trump, qui est actuellement dans son avion en direction d'Israël, affirme que la guerre à Gaza est terminée. Seront présents également demain les dirigeants de plus de 20 pays, dont le président français Emmanuel Macron, ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Il promet de faire reconnaître son innocence et martèle qu'on n'est pas humilié par l'injustice. Nicolas Sarkozy connaîtra la nuit prochaine la date et le lieu de son incarcération. L'ancien président de la République s'est confié dans les colonnes du Journal du Dimanche et dénonce une affaire qui n'est plus juridique, mais désormais symbolique. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Ses habitudes n'ont pas changé, sa détermination non plus. Depuis sa condamnation, Nicolas Sarkozy explique dans le Journal du Dimanche recevoir une flopée de marques de soutien, de lettres d'interpellation dans la rue. Soutien qui montre ses liens conservés avec une partie du pays et qu'il explique en une phrase, les gens ne comprennent pas. Il faut dire que sa condamnation survient après 3 relaxes et un papier qui a provoqué 10 ans d'instruction avant de se révéler faux, le document Mediapart. Mais l'ancien président ne baisse pas la tête. On veut m'abaisser mais on n'humilie pas un innocent, explique-t-il. Pour l'ancien maire de Neuilly, la question est avant tout celle de la survie, de la présomption d'innocence et des dévoiements du système. Si la justice dérive, c'est tout l'édifice qui s'effondre, martèle-t-il depuis plusieurs jours. Alors à ceux qui s'attendaient à sa propre chute, Nicolas Sarkozy montre le contraire, l'image d'un homme qui assure que la fin de l'histoire n'est pas écrite. Quand il y a une croix à porter, il faut la porter jusqu'au bout, résumait-il avant de quitter la salle dans laquelle il a réuni ses fidèles la semaine dernière.
Maïhélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité, en bref, un Algérien suspecté de préparer un attentat en France a été interpellé cette semaine en Île-de-France. Surveillé par les autorités, cet homme d'une vingtaine d'années aurait été en contact fréquent avec l'État islamique et aurait projeté une attaque dans une gare. Il prévoyait aussi de se rendre en Syrie pour faire le djihad. Et enfin, comment mesurer correctement l'action de la justice quand les statistiques sont au mieux illisibles, au pire inexistants ? C'est la question que pose un récent rapport du Sénat qui pointe du doigt des lacunes en matière de chiffres, notamment sur les exécutions de peine. Les données dont on dispose aujourd'hui ne permettraient pas d'évaluer correctement les politiques pénales, William Molinier.
Oui, à l'image de ce qui a été appelé l'Observatoire de la réponse pénale. Il a été créé en 2021 à la demande des syndicats de policiers pour connaître les peines infligées aux agresseurs de forces de l'ordre. Cet observatoire a livré sa première analyse. Un an plus tard, on apprenait que la justice n'avait prononcé en moyenne que des peines comprises entre 8 et 14 mois de prison à l'encontre des auteurs de violences sur les policiers. Des chiffres déjà périmés, puisqu'ils portaient sur l'activité judiciaire de l'année 2019, la seule disponible à l'époque. Depuis, rien, pas une seule étude, parution ou communication. Cet observatoire est une coquille vide. Il est pourtant rattaché au service statistique du ministère de la Justice, mais selon les informations d'Europe 1, aucun fonctionnaire n'y a été affecté. Illustration d'une justice incapable de photographier en temps réel son activité ni d'évaluer les réformes pénales mises en place. Sont-elles performantes? Correspondent-elles à ce que le législateur a voulu? Sans thermomètre, la mesure est de fait impossible.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1, il est midi 2.